Ben justement, on est dans le cœur du livre des Actes des Apôtres. Nous ne sommes que dans le deuxième chapitre et volontairement, on s'est arrêté sur ce passage-là du deuxième chapitre, alors que les 120, quelques disciples du Seigneur, ceux qui avaient obéi à l'ordre de Jésus, pas simplement une recommandation, pas simplement une suggestion, mais un commandement. Le Seigneur Jésus a donné un ordre de ne pas quitter la ville de Jérusalem jusqu'à ce qu'il soit baptisé du Saint-Esprit. Et on est en train d'étudier ensemble les raisons pour lesquelles c'est si important d'attendre et d'être baptisé du Saint-Esprit. Ça fait toute la différence, en fait, au monde. Et on a vu quelques premières raisons dans nos réunions précédentes. Et ce soir encore, on veut continuer parce qu'il y a tellement d'opposition contre ce que le Saint-Esprit fait. Souvenez d'Étienne, lorsqu'il a prêché son grand message au Sanhédrin, il dit « Vous vous opposez toujours à qui? Au Saint-Esprit. » Parce que ce que nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres, le plan de l'Église, le blueprint de l'Église, comment ça devrait fonctionner, comment ça devrait marcher l'Église, c'est que Dieu a donné le Saint-Esprit à ses apôtres, à ses disciples, par le Seigneur Jésus-Christ, afin que celui-ci puisse devenir le dirigeant de l'Église, celui qui dirige l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et tant et aussi longtemps que nous laissons le Saint-Esprit diriger l'Église, nous sommes dans la parfaite volonté de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuves, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de persécution. Je dirais même, au contraire, il va probablement avoir plus de persécution si vous désirez fonctionner selon la parfaite volonté de Dieu dirigée par le Saint-Esprit. Mais au moins, nous avons la satisfaction de ne pas vivre inutilement, de ne pas faire des œuvres inutiles, parce que beaucoup de chrétiens font de bonnes œuvres, mais les font inutilement. Amen. Vous avez manqué une belle place pour dire amen. Parce que c'est pas le concours de savoir qui va faire le plus d'œuvres. C'est même pas le genre d'œuvre que nous faisons qui compte. Mais la Bible dit que le Seigneur a préparé d'avance des œuvres pour nous afin que nous les pratiquions. C'est-à-dire que on sera pas récompensé sur tous les efforts que nous aurons faits ou toutes les œuvres que nous aurons accomplies, seulement celles qui avaient été préparées d'avance pour nous. Gloire à Dieu! Ça veut dire qu'il y a des œuvres qui ont été préparées spécialement et uniquement pour vous. Amen. Dis-le à ton voisin, c'est juste pour toi. Amen! Il y a des œuvres qui ont été préparées d'avance que personne d'autre ne peut vraiment accomplir comme vous, parce qu'elles ont été préparées pour vous afin que vous les pratiquiez. Mais comment allez-vous savoir quelles sont ces œuvres? Amen. Sinon, si vous êtes dirigé par le Saint-Esprit. Il faut apprendre à être dirigé par le Saint-Esprit pour savoir si ce que nous faisons, c'est vraiment les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Sinon, on peut se fatiguer, on peut tellement être frustré à faire toutes sortes d'efforts et toutes sortes d'œuvres. Et en plus, il n'y a aucune récompense qui nous est réservée parce que ce ne sont pas des œuvres qui ont été préparées d'avance pour nous. Alors, le Saint-Esprit a été donné et si nous marchons avec lui, nous entrons dans la parfaite volonté de Dieu et nous sommes en paix, nous sommes joyeux, nous sommes remplis des choses de Dieu parce que nous fonctionnons avec le Saint-Esprit. Pouvez-vous dire amen? Une autre raison très importante, c'est ceci. Nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit afin d'apprendre à fonctionner par l'inspiration du Saint-Esprit plutôt que la sagesse des hommes. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit afin de fonctionner par l'inspiration du Saint-Esprit plutôt que la logique et le raisonnement et la sagesse des hommes. Et même si c'est facile de dire amen à cette déclaration-là, c'est très, très subtil, vous savez. Écoutez ce verset-là dans Jérémie chapitre 2 et le verset 13. Jérémie chapitre 2, verset 13, le prophète dit ceci, « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, Ça, c'est le premier péché. Moi qui suis une source d'eau vive. Et deuxième péché, ils m'ont abandonné pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Mon peuple a commis deux péchés. Premièrement, ils m'ont abandonné. Ils ont délaissé mes voies, ont délaissé la dimension de mon esprit pour se creuser des citernes. Ça, ce sont toutes les sciences humaines qui essaient de nous expliquer les choses de Dieu. Les sciences humaines sont bonnes pour le domaine humain. Mais lorsqu'on arrive dans le domaine de Dieu, lorsqu'on arrive dans le domaine spirituel, on peut pas fonctionner avec les sciences des hommes. Il faut fonctionner par la révélation du Saint-Esprit. Et souvent, l'Église a abandonné la direction, l'inspiration, la révélation donnée par le Saint-Esprit pour se creuser ses propres citernes, ses sources qui viennent de la science des hommes et qui, dans le fond, ne règlent pas vraiment les problèmes. Parce que souvent, les gens font affaire toujours avec les mêmes personnes, quelquefois pendant des années et des années et des années, sans qu'il y ait aucune amélioration ou presque ou aucun changement parce que ce sont des citernes crevassées. Parce que nous avons abandonné la direction, l'inspiration et la révélation du Saint-Esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 1. Il dit, « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. » Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous, autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et écoutez le témoignage de Paul. Il dit, moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Alors pourquoi est-ce que Paul, qui est un homme tellement instruit, tu sais, c'est Saul de Tarse. Il y a une raison pour laquelle on l'appelait Saul de Tarse. Parce qu'à Tarse, c'était reconnu à l'époque contre un centre culturel vraiment exceptionnel. Et lorsqu'on le nomme Saul de Tarse, on voulait dire que c'était un homme vraiment très instruit. Il a été aussi très instruit selon la loi de l'Ancien Testament, puisqu'il dit qu'il a étudié au pied de Gamaliel, qui était l'enseignant par excellence chez Israël à cette époque-là. Alors, il y a le meilleur des deux mondes, il y a le meilleur enseignement possible au point de vue de la loi de l'Ancien Testament. Il va dire lui-même qu'il est comme irréprochable au point de vue de la loi. Et en même temps, il y a toute la science de ce monde parce que c'est Saul de Tarse, un homme très instruit. Comment un homme si instruit peut dire ici, alors qu'il était chez les Corinthiens, et on sait que les Corinthiens, ce n'est pas l'Église la plus avancée dans le domaine spirituel dans le Nouveau Testament. C'est les Éphésiens qui vraiment avaient une profondeur des Écritures, tandis que les Corinthiens étaient des charnels. Alors, ce n'était pas des gens vraiment qui étaient vraiment intellectuels ou qui étaient vraiment profonds dans les choses de Dieu, mais c'était beaucoup plus des gens qui étaient charnels. Et comment un homme comme Paul, qui est plein de la connaissance de l'Ancien Testament, plein de la science de ce monde, peut dire face à ces Corinthiens-là, quand je suis venu chez vous, j'étais dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement devant vous. Pourquoi est-ce que Paul dit « je suis dans un état de crainte, de faiblesse et d'un grand tremblement » parce qu'il ne veut pas prêcher selon ses connaissances humaines. Parce qu'il ne veut pas prêcher d'après son grand savoir qu'il a acquis aux universités de Tarse. Mais lorsqu'il va ouvrir la bouche, lorsqu'il va prêcher la parole de Dieu, il craint parce qu'il ne veut pas qu'il sorte autre chose que l'inspiration et la révélation du Saint-Esprit. Alléluia! Parce qu'autrement, dit-il, votre foi serait basée sur la connaissance, la sagesse des hommes plutôt que sur la puissance de Dieu. Alors, il dit, je suis dans un état de crainte, de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia! Et ça prend le Saint-Esprit pour être capable d'enseigner, de prêcher par la puissance justement du Saint-Esprit, par l'inspiration et la révélation du Saint-Esprit. Autrement, c'est sûr qu'on peut avoir une grande foule devant nous. Et puis les intéressés, je peux prendre des histoires dans la sélection de Reader's Digest, puis vous raconter toutes sortes de belles histoires. Et habituellement, ça va plaire aux gens parce qu'on ne les provoque pas. Comprenez-vous ce que je vous dis? Je peux vous donner des beaux exemples de gens qui ont accompli des choses dans le monde. Faire de beaux discours qui ne vous donnent absolument rien sauf une certaine motivation qui va durer pendant quelques heures. Tandis que si l'enseignement est donné par la révélation, Amen. Par l'onction Amen. Et par l'inspiration du Saint-Esprit, yes. Ou bien vous allez être très heureux, vous allez crier « Amen! » Vous allez être provoqué et choqué. Amen! Ou bien la prédication vous rend très heureux ou elle vous choque. Sinon, je vous raconte des histoires. Amen. Restez pas calme de même. J'aime pas ça. Dire amen de temps en temps. Parce que c'est la vérité ce que je vous prêche. Amen. On peut s'arranger pour que personne ne soit blessé, personne ne soit choqué. Souvent, peut-être pas souvent, mais quelquefois, les gens disent « Ah, tu m'as visé! » Non, on ne vise personne en prêchant, mais je suis content que tu te sentes visé parce que le Saint-Esprit t'a visé. Saint-Esprit veut dire quelque chose. Amen. Mais on peut ne blesser personne et ne choquer personne et que personne ne se sente visé dans une prédication parce que je peux vous raconter vraiment des belles choses motivantes qui sont agréables à entendre et qui semblent nous fortifier, mais qui sont des citernes crevassées parce que ça vient de la sagesse des hommes et non pas la révélation Amen. Du Saint-Esprit. Alléluia! Gloire à Dieu! Exemple, Jésus arrive à Capharnaüm dans la synagogue. Et il est en train de prêcher la parole de Dieu. Et vous lirez ça, c'est dans Marc, le premier chapitre, des versets 21 jusqu'à 28. Et puis, soudainement, pendant qu'il est en train de prêcher, il y a un monsieur qui est là et qui se met à crier dans la synagogue. « Ah! Qu'y a-t-il entre toi et nous? Je sais que tu es venu pour me perdre! » Et c'est un esprit démoniaque, un esprit d'impureté qui a été provoqué par le Saint-Esprit qui était dans le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, ma question est celle-ci. Comment se fait-il que cet homme s'est manifesté à ce moment-là, alors que c'est certain que ce n'est pas la première fois qu'il vient à la synagogue? Le monsieur vient chaque semaine. Il vient à chaque sabbat pour la lecture de la parole de Dieu avec son démon d'impureté, qui est très à l'aise dans la synagogue et qui est très à l'aise à écouter la lecture de la parole de Dieu. Il ne s'est jamais manifesté. Mais cette fois-là, Jésus est là et il parle par la révélation du Saint-Esprit et le démon qui est dans cet homme n'est plus du tout à l'aise dans la synagogue parce qu'il se sent provoqué. Comprenez, vous n'avez pas besoin de chercher à provoquer des démons. Juste à être rempli du Saint-Esprit, c'est suffisant pour que les démons se manifestent. Amen. Et la raison pour laquelle cet homme s'est manifesté, c'est parce que Jésus de Nazareth était déjà rempli du Saint-Esprit et la puissance qui émanait de lui, c'était suffisant pour faire la provocation de ce démon-là qui était dans la vie de cette personne. Et une des raisons pour laquelle Jésus est venu, c'est afin de libérer les captifs. Alléluia! Et même si nous sommes chrétiens, même si nous sommes enfants de Dieu, on a besoin de faire le nettoyage dans nos vies. On peut devenir religieux. Il n'y a aucun démon qui va être provoqué. Il n'y a aucun démon qui va être manifesté si on fait juste raconter des histoires ici derrière le pupitre. Mais je vous garantis, si on commence à prêcher l'authenticité, la parole de Dieu, et qu'on parle par la révélation et l'inspiration du Saint-Esprit, ça provoque des choses. Amen! Je sais, parce que quand des prédicateurs, tu vois les figures, tu vois les yeux des gens. Et quelquefois, c'est comme deux carabines, à gauche et à droite. Et s'il y avait des balles là-dedans, ça ferait longtemps que je serais mort ici en avant. Pourquoi est-ce que soudainement les yeux changent? Pourquoi soudainement les visages changent? Parce qu'il y a une provocation qui est produite par la prédication inspirée par le Saint-Esprit.
Amen.
Amen. Que vous disiez amen ou non, c'est la vérité. Gloire à Dieu. Et c'est drôlement important d'apprendre cette différence-là, de fonctionner avec l'inspiration et la révélation du Saint-Esprit. Une autre raison, c'est afin, la Bible dit, de rappeler aux disciples les enseignements que Jésus leur avait donnés. Ça dit dans Jean, chapitre 14 et le verset 25, Jésus dit, « Le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Attends, c'est encore important aujourd'hui et c'était drôlement important au tout début dans la première génération de chrétiens parce que les premiers disciples du Seigneur Jésus, ils devaient comprendre par la révélation du Saint-Esprit tout le changement qui était en train de se produire entre tout le symbolisme de l'Ancien Testament et la réalité du Nouveau Testament en Jésus-Christ. Attends, écoutez bien. Si on peut reculer dans le temps, 2000 ans en arrière, et qu'on se mette un petit peu dans les souliers des premiers disciples qui ont accepté Jésus comme le Seigneur. OK, ils sont dans une société chez les Juifs, parce que au tout début, c'est à Jérusalem qu'on a commencé à prêcher les premiers messages du Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ. Et tu es dans un milieu, entre guillemets, religieux, qui fonctionne depuis quelques milliers d'années. Vous me suivez? Il y a tout un système en place. En fait, toute la société de l'époque, elle est régie, contrôlée par tout le système de l'Ancien Testament. À un certain moment donné, le Sanhédrin contrôlait la vie politique, la vie économique et la vie religieuse de tout habitant d'Israël. Alors, ce n'est pas juste une religion qu'on choisit, c'est tout le système, toutes les fibres de la société sont liées ensemble dans les enseignements de l'Ancien Testament. Alors, le petit enfant qui est venu au monde dans ce système-là, tout ce qu'il connaît, c'est le temple à Jérusalem, les prêtres lévites, les sacrifices qu'on doit faire lorsqu'on commet des péchés, les trois grandes fêtes annuelles où tous les hommes, peu importe où ils demeuraient en Israël, devaient monter à Jérusalem, et toutes les fêtes et toutes les cérémonies, hein, quand on lit tout l'Ancien Testament, le livre du Lévitique, puis ainsi de suite, il y a mille et une choses, et chaque personne est imprégnée de cela depuis sa tendre enfance, depuis sa naissance. En fait, il est éduqué dans ce système-là. Il n'y a pas d'autre système, c'est la loi de Dieu. Voilà que Jésus arrive et il va être un provocateur. Il va commencer à enseigner que très bientôt, tout ce système-là, bye-bye, on n'a plus besoin. Et je ne sais pas si tu sais, mais essayer de changer les traditions des êtres humains, changer les routines. Tu sais, quand notre sœur disait, j'ai écouté ses cassettes, je ne sais pas pourquoi on s'assit toujours à la même place quand on vient à l'église. Tu sais, on le fait parce qu'on est des créatures d'habitude. Et j'ai vu ça dans certaines assemblées. Essaie pas de dire à la personne, ton soir, je veux ta place, parce que tu as la troisième guerre mondiale sur tes bras. C'est comme si elle a acheté cette place-là, elle a acheté cette chaise-là. Comprenez, nous sommes des créatures d'habitude et c'est pas facile de changer nos habitudes et de briser nos routines religieuses. Alors, imaginez, Jésus arrive dans un système qui fonctionne depuis des milliers d'années et commence tout doucement à dire, vous avez entendu dire, mais moi, je vous dis. Autrefois, on faisait ça comme cela, mais les jours viennent où ce ne sera plus du tout comme cela. C'est comme cela qu'on va faire ça. Et c'est sûr qu'il a rencontré beaucoup d'opposition. On a voulu le tuer à maintes reprises. On a dit qu'il était possédé de démons. On a dit qu'il était rendu fou. On a dit toutes sortes de choses au sujet de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il était comme un révolutionnaire à l'époque. Quelqu'un qui veut changer le système. Et ce n'est pas évident de changer un système qui fonctionne depuis si longtemps et surtout qui vient de Dieu. Et finalement, il est mort sur la croix de Golgotha. On connaît toute l'histoire. Ses disciples ne croyaient pas en lui. Finalement, par la résurrection, il s'est montré. Leur foi a été stimulée. Ils ont commencé à prêcher la parole de Dieu. Mais eux, ils avaient les mêmes problèmes que Jésus avait. Ils faisaient face à tout un système religieux établi depuis des milliers d'années, établi par Dieu lui-même. Et mettez-vous dans leurs souliers. Supposons que toi, t'es Jean, t'es Pierre, puis ainsi de suite. Et t'essayes de prêcher aux gens de Jérusalem qui n'ont plus besoin d'aller au temple le jour du sabbat. C'est comme lorsque tu disais aux gens qui n'ont plus besoin d'aller à la messe le dimanche. Tu ne vas plus à la messe le dimanche, tu disais, tu t'en vas chez le diable. Disait la même chose, tu ne vas plus au temple le jour du sabbat, hein, c'est fini pour toi. Non seulement cela, mais ils devaient commencer à prêcher qu'ils n'ont plus besoin d'apporter leurs animaux aux prêtres lévites, parce qu'il y avait eu un sacrifice parfait qui a été fait ici à Jérusalem, à l'extérieur des murs de Jérusalem. L'agneau parfait de Dieu, c'était Jésus-Christ que vous avez crucifié, et on n'a plus besoin d'emmener nos animaux aux prêtres, parce que déjà Dieu a pourvu par cet agneau pour le pardon de tous les péchés du monde entier. Aïe, aïe! Mais c'est rien en comparaison de messages qui leur disaient « Vous ne devez plus payer votre dîme. » Aïe, aïe! Le mot, j'ai été lâché, la dîme! Ça, c'est très, très sensible parce que c'est notre portefeuille. Vous ne devez plus payer votre dîme au temple, mais vous devez la donner à nous, les représentants du Seigneur Jésus-Christ. Comprends-tu? Aimes-tu mieux vivre dans cette génération que la première génération? Et c'est pourquoi ça a pris le Saint-Esprit pour donner cette révélation-là et ramener les choses que Jésus leur avait enseignées. Parce que pendant 3 ans, les disciples ont été à l'école biblique de Jésus. Et tout doucement, il était en train de leur enseigner ces choses. Il y avait un changement majeur dans les choses de Dieu qui étaient sur le point de se produire. Et on n'aime pas les changements majeurs. Mais Jésus a pris 3 ans pour les apprivoiser, essayer d'enseigner progressivement ces choses. Et le Saint-Esprit a été donné aux disciples comme il nous est donné à nous aujourd'hui pour nous rappeler ce que Jésus a donné comme enseignement. Et ça n'a pas été facile, comme c'est pas plus facile aujourd'hui. Et au tout début, ils ont pris beaucoup de temps avant de comprendre l'ampleur de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Parce que les services à Jérusalem, au temple, ont continué jusqu'en l'an 70 après la mort de Jésus. Si on dit qu'il est mort en l'an 33 peut-être, ou c'est autour de cela, ça veut dire que tu as presque 40 ans encore où ça n'a rien changé à Jérusalem. Même s'il y a des milliers de personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, les prêtres n'ont pas vraiment été touchés. Le système religieux n'a pas vraiment été touché. Et pendant presque 40 ans après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, le même train-train quotidien continuait dans le temple à Jérusalem. Les gens apportaient encore leurs animaux, leurs offrandes. Les prêtres lévites faisaient encore les sacrifices. Et puis le voile avait été déchiré, mais on l'a recousu. Comme les hommes aiment toujours refaire ce que Dieu a fait. Wow. La présence de Dieu n'était plus manifestée. Une fois par année, comme on sait, le souverain sacrificateur devait entrer au-delà du voile, attendait la manifestation de la gloire Shekinah, la nuée lumineuse. Elle ne venait plus, la nuée lumineuse, parce que cette dispensation-là était terminée. Lorsque le voile s'est déchiré, vous vous souvenez, on a prêché là-dessus l'importance des vêtements dans la Bible. Lorsque quelqu'un déchirait son vêtement, ou bien c'était un signe d'humilité devant Dieu, ou cela signifiait que c'était terminé. Son office ou son ministère était terminé, comme Caïphe qui a déchiré ses vêtements, quand Jésus ose dire « C'est moi le souverain sacrificateur établi par Dieu pour l'éternité ». Et lorsque le voile s'est déchiré dans le temple, les gens disaient, le voile, c'est le pan de la robe du Seigneur. C'est comme si Dieu lui-même déchirait son vêtement, signifiant que tout l'ordre sacerdotal de l'Ancien Testament était terminé. Ce ministère-là était terminé, parce que maintenant, il y avait un nouveau sacerdoce, celui du Seigneur Jésus-Christ, qui était selon l'ordre de Melchisédek, un rang plus élevé que celui d'Aaron ou de Lévi. Mais malgré cela, malgré que la nuée lumineuse ne venait plus dans le lieu très saint, comprenez comment les gens sont attachés aux religions, aux routines religieuses, aux traditions. Même si Dieu ne manifestait plus sa présence, il continuait le système. Il venait quand même. Probablement qu'ils ont trouvé des explications pourquoi la nuée de gloire ne revenait plus dans le lieu très saint. Ils ont trouvé des explications pour dire aux gens pourquoi le voile a été déchiré, pourquoi on l'a recousu ce voile-là. Mais ils ont entretenu le système. Et si Dieu n'était pas intervenu, ben il se ferait encore des sacrifices à Jérusalem. Alors Dieu a appelé les Romains. Dieu peut servir de n'importe qui. Dieu a appelé les Romains, puis il dit, c'est le temps de détruire le temple, parce qu'ils ne comprennent pas la prédication de mes apôtres et de mes disciples. Et Rome est venue, sous la direction de Titus, le général de l'armée. Ils ont pensé à saccager la ville de Jérusalem, et puis le temple a été brûlé. On ne voulait pas brûler le temple, c'est accidentel, c'est un accident. Le feu a pris à toutes ces draperies et rideaux qu'il y avait dans le temple. Et dans l'espace de peu de temps, le temple a passé au feu. Et il y avait tellement d'or dans ce temple-là. Vous savez que c'était un temple qui, aujourd'hui, coûterait, je pense, 80 milliards de dollars américains à construire. Parce que c'était plein de choses précieuses. Et surtout, il y avait beaucoup, beaucoup d'or. Et lorsqu'il y a un feu intense, qu'est-ce qui arrive alors? Elles font. Et les soldats romains se sont empressés après que le temple a été rasé par le feu. Et lorsque les pierres ont été refroidies, ils ont viré chaque pierre à l'envers parce qu'ils trouvaient de l'or. Ils ne savaient pas, mais c'était des instruments pour l'accomplissement d'une parole que Jésus avait donnée. Il ne restera pas pierre sur pierre de ce temple-là. Jésus avait prophétisé que chaque pierre serait renversée, et à cause de l'or qui avait fondu et coulé dans toutes ces pierres, les soldats romains, pour récupérer l'or, ont pris chaque pierre et les ont renversées, accomplissant la parole du Seigneur Jésus. Amen. Alors, comprenez pourquoi ils avaient besoin du Saint-Esprit. Et pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit? Parce que pensez pas que dans notre génération, c'est beaucoup mieux. On fait face à des systèmes religieux aussi forts que la première génération de chrétiens. La preuve, c'est dès qu'un mouvement du Saint-Esprit inhabituel, première chose, c'est une résistance. Et c'est curieux parce que c'est toujours à peu près la même histoire. Nous, les chrétiens, quand on ne comprend pas ce que Dieu est en train de faire, on attribue ça au diable. Combien de fois on a entendu ça, c'est du diable. Ben oui. Tomber par en avant, c'est du diable. Tomber par en arrière, c'est du diable. Tomber par en avant, c'est de Dieu. J'ai lu ça dans plusieurs livres. Tu sais, je ne sais pas où ils ont été chercher ça. C'est sûrement pas dans la parole de Dieu. Mais ça prouve que c'est toujours très compliqué, très difficile d'essayer de bousculer des routines religieuses, des traditions qu'on a depuis des années et des années, et entrer dans ce que le Saint-Esprit veut nous dire et ce que le Saint-Esprit veut faire. Et c'est pourquoi on a besoin d'être non seulement baptisé du Saint-Esprit. Quand je parle de baptême du Saint-Esprit, c'est pas juste une expérience qu'on a vécue il y a 15 ans passé, lorsqu'on était rempli du Saint-Esprit pour la première fois et qu'on a parlé en d'autres langues. Mais c'est une question d'être continuellement baptisé du Saint-Esprit, continuellement rempli du Saint-Esprit. Ça aussi, c'est un commandement du Nouveau Testament. Paul dit d'être continuellement rempli du Saint-Esprit. Parce que si nous sommes continuellement remplis du Saint-Esprit, on va opposer beaucoup moins de résistance à ce que le Saint-Esprit fait. Parce qu'on va comprendre davantage, même si on ne comprend pas jamais toute chose, au moins on va ressentir que l'Esprit est dans cette affaire-là.
Amen.
Amen. Amen. À moins d'être complètement... Il y a deux genres de personnes. Tu as des gens qui sont opposés par nature aux choses de l'Esprit, et tu as des gens qui sont dans l'ignorance. C'est pas la même chose. Et souvent, lorsqu'il y a un nouveau mouvement du Saint-Esprit, les gens qui étaient dans l'ignorance concernant la personne du Saint-Esprit vont entrer facilement dans les choses de l'Esprit. Parce que pour eux, c'est comme un cadeau. Ils ne savaient pas, ou on leur a prêché le contraire, et soudainement, ils vivent certaines expériences, et ils disent « Non, 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 c'est bon! » Et il y a une différence entre ces gens-là et les gens qui sont catégoriquement opposés aux choses de l'Esprit. Et ça devient de plus en plus évident, de plus en plus facile à discerner ceux qui sont catégoriquement opposés aux choses de l'Esprit et ceux qui ont un cœur ouvert pour les choses de l'Esprit de Dieu. Et habituellement, ceux qui sont dans l'ignorance, comme j'ai mentionné, vont l'accepter facilement. Il y a plusieurs années, je prêchais dans une ville. Et puis, alors qu'on était à table dans la famille qui nous recevait, le jeune homme dit, j'aimerais vous raconter l'histoire de notre église, parce qu'il dit, ça n'a pas toujours été une église remplie du Saint-Esprit. Il dit, ici, c'était une église unie, qui était contre les choses de l'Esprit, qui ne croyait pas à la personne même du Saint-Esprit. Et puis, il y a un jeune homme qui a été sauvé, ce jeune homme-là. Et gloire à Dieu pour les nouveaux, parce que les nouveaux ont toujours faim et soif, puis ont des questions, puis veulent savoir. Tant souvent, les plus vieux, ils ont plus de questions, puis ils n'ont plus de réponses non plus. Mais les nouveaux, souvent, ils sont alertes, puis ils cherchent. Et puis, soudainement, le jeune homme a commencé à lire plusieurs livres. Il y a un livre qui parlait du baptême du Saint-Esprit, qui le parlait en langue. Il est allé voir son pasteur, puis il dit, « Comment ça se fait qu'on n'a pas ça, nous, dans notre église? » Et le pasteur dit, « Oh, fais attention à ça, c'est des choses démoniaques, c'est pas pour nous aujourd'hui, c'est pour la première génération de chrétiens, et ainsi de suite. » Et puis, quelques temps plus tard, le jeune homme me dit, « Le dimanche matin, j'écoute une émission de télévision, c'est un évangéliste qui prêche, et il prêche ce dimanche-là sur le baptême du Saint-Esprit, et qu'on pouvait le recevoir encore aujourd'hui. » Et je retourne voir le pasteur. Le pasteur dit, « Oh, attention, beaucoup de charlatans à la télévision, c'est pas pour nous aujourd'hui, ça vient du diable, et ainsi de suite. » Et le jeune homme dans la confusion, parce que il ressent dans son cœur que c'est des bonnes choses, le Saint-Esprit, mais son pasteur dit que c'est démoniaque, puis c'est plus pour nous aujourd'hui. Alors, il dit à la famille qui nous recevait, « Qu'est-ce que vous en pensez? » Et eux ne savaient pas non plus, parce qu'ils étaient des gens qui fréquentaient l'Église unie, où on ne prêchait pas, bien sûr, le baptême du Saint-Esprit. Alors, le jeune homme, dans son zèle, il a dit, « Si vous le voulez, à tous les soirs, pendant toute une semaine, dans votre sous-sol, dans votre maison, on va faire des réunions de prière. Et puis, s'il y en a un qui le sait, si le Saint-Esprit, c'est pour aujourd'hui ou non, c'est le Seigneur. » Et on va lui demander à lui. Bon, le pasteur dit non. À la télévision, ils disent oui. Dans certains livres, ils disent oui. Dans d'autres livres, ils disent non. S'il y en a un qui n'est pas dans la confusion, s'il y a quelqu'un qui le sait que c'est pour nous aujourd'hui ou non, c'est le Seigneur lui-même. Alors, on va lui demander honnêtement pendant une semaine de temps. Et si après une semaine, on n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est le pasteur qui a raison. Et si on le reçoit, ben, c'est parce que c'est pour nous aujourd'hui. Le Seigneur, je pense qu'il aime les gens de prière comme ça. Et ils sont mis à prier, ils n'ont pas pris plus que deux soirs, je pense, le deuxième soir, alors qu'ils sont tous réunis dans le sous-sol, en train de prier, demander au Seigneur, tranche la question, montre-nous si c'est pour aujourd'hui. Le feu du ciel est descendu dans le sous-sol et ils ont tous été baptisés du Saint-Esprit sans que personne ne leur impose les mains. Ils sont à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et le jeune homme me dit, oh, il s'appressait d'aller voir mon pasteur. Il dit, pasteur, pasteur, au sujet du baptême du Saint-Esprit. Et le pasteur dit, ah, oh, ne touche pas ça, c'est pas de Dieu, c'est pas pour nous aujourd'hui. Ah, oh, il dit, trop tard, monsieur le pasteur, on l'a déjà reçu. Et le pasteur, après cela, a été baptisé lui aussi du Saint-Esprit. Et la plupart des gens dans l'Église unie ont été baptisés du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi c'était tellement facile de prêcher la parole de Dieu lorsque nous sommes allés dans cette église-là pour un week-end de réunion spéciale. Alors, comprenez ça, ce sont des gens qui étaient dans l'ignorance, mais qui avaient un bon cœur, un cœur ouvert envers les choses de Dieu et qui ont reçu. Et ça, c'est différent des gens qui sont vraiment au courant, mais ils sont opposés parce qu'ils savent que si on marche selon l'Esprit, ben le Saint-Esprit va provoquer des choses dans notre vie. Il va devoir y avoir des changements dans notre vie. Parce que lorsqu'on reconnaît le Saint-Esprit et on commence à fonctionner avec lui, le Saint-Esprit, une de ses missions, un de ses ministères, c'est de mettre le doigt sur certains petits bobos qu'on a encore dans notre vie. Et il le fait gentiment, mais il le fait avec insistance. Amen. Jusqu'à un moment donné où on a juste deux choix. On abandonne notre bobo ou on résiste au Saint-Esprit. Alléluia. C'est bon d'être baptisé du Saint-Esprit.
Amen.
Amen. Alors, comprenez, ces gens-là avaient tout un défi devant eux. Ils devaient prêcher la révélation de la croix, prêcher que les gens n'avaient plus besoin de monter au temple, prêcher que les gens n'avaient plus besoin d'amener leurs sacrifices aux prêtres lévites. Ils devaient prêcher que tout le système des prêtres lévites, il y en avait des milliers de prêtres lévites. Vous n'avez plus de job. Votre travail est inutile. Ce que vous faites en vain. les sacrifices que vous, les animaux que vous égorgez, les prières que vous faites, les incantations que vous le faites inutilement, c'est terminé. On est dans une autre époque, une autre dispensation. Ça, c'était juste des symboles qui devaient nous conduire à la réalité. La réalité est venue dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Vous faites ça pour rien. Mais avant qu'ils aient l'audace de prêcher comme cela, il a fallu que le Saint-Esprit travaille beaucoup en eux. Et s'ils n'avaient pas été baptisés du Saint-Esprit, ils n'auraient pas été capables de prêcher cette révélation. Parce qu'imaginez-vous, baptisés du Saint-Esprit, ça a pris tous les efforts possibles pour leur faire comprendre qu'il y a un nouveau système qui est en place, qu'il y a une nouvelle révélation qui est en place. Imaginez juste le cas de Pierre. Tu sais, on lit dans le livre des Actes des Apôtres, dans le chapitre 10, Pierre qui va prêcher chez un Italien d'un drôle de nom, Corneille. Et avant que Pierre ne puisse venir chez Corneille, en fait, Dieu lui parle par révélation et par vision. Parce que Pierre vient de faire une campagne d'évangélisation dans la vallée du Charon. Il n'est pas tellement loin de Tel Aviv, puis de Joppé, qui est juste à côté de Tel Aviv. Et puis, il prend quelques jours de repos dans la maison de Simon, le corailleur, c'est une personne qui travaille le cuivre, sur le bord de la mer Méditerranée. Wow, ça c'est bon. Puis, il dit, je vais passer quelques jours de vacances ici, me reposer avant de retourner à Jérusalem. Et puis, il est en train de prier, lorsque soudainement, il y a cette première vision. Qu'est-ce qu'il y a dans la vision? Des animaux impurs. Qu'est-ce que Dieu voulait lui montrer? D'aller à la chasse? Non. Parce qu'à l'époque, tout ce qui n'était pas juif était considéré impur. Les juifs appelaient ceux qui n'étaient pas juifs des chiens. C'est pour ça que la femme parle des miettes qui tombent de la table et que les chiens vont manger. Elle ne parle pas des chiens physiques, elle parle de ceux qui ne sont pas juifs parce qu'elle n'était pas juive. Et Dieu lui montre, le Seigneur lui montre ces animaux impurs. Et puis, vous savez, ça a pris trois fois. Il fallait que la vision revienne à trois reprises. Et puis, Pierre comprenait vraiment pas le sens de la vision. Mais, soudainement, on frappe à la porte en bas. Et la Bible dit, l'Esprit dit à Pierre. Wow, ça, j'aime ça. C'est pas un comité qui a parlé. C'est pas un leader dans l'Église. Le Saint-Esprit dit à Pierre, va avec ces trois hommes, car cela vient de moi. Wow! Si on pouvait revenir à cette simplicité-là dans l'Église, d'écouter la voix de l'Esprit. Et l'Esprit, s'il parle à Pierre, il peut vous parler aussi. Amen. Même si tu t'appelles Jean, hallelujah! Il peut nous parler aujourd'hui, nous dire la même chose. Voici, il y a trois hommes en bas, cela vient de moi, va avec eux! Et Pierre est descendu, a vu ces trois hommes, et puis ils n'ont pas eu besoin d'expliquer longtemps la requête de Corneille, parce qu'en même temps, Dieu travaillait un peu plus au nord, à Césarée-Maritime, qui est à peu près, je pense, une quarantaine de kilomètres au nord de Joppé. Et Corneille est là dans sa maison, est en train de prier lui aussi. Il n'est pas sauvé, mais c'est un homme juste, un homme qui prie et un homme qui fait beaucoup d'aumônes. Mais il a presque un meilleur témoignage que beaucoup de chrétiens. Il n'est pas encore chrétien. Imagine-toi quand tu vas être sauvé, cet homme-là. Et il y a un ange qui lui est apparu. Et l'ange lui dit, « Va chercher un dénommé Simon-Pierre, qui est dans la maison de Simon le corailleur. » Comprends-tu? Même les anges savent où tu demeures et ce que tu fais. Alléluia! Pas eu besoin de s'informer au kiosque touristique de la place. Non, il dit, il est à Joppé et il est dans telle maison sur le bord de la mer Méditerranée, la maison de Simon le corailleur. Fais-le venir et lui va te donner des paroles par lesquelles tu pourras être sauvé. Et Corneille a envoyé trois de ses serviteurs. Pierre a dit, OK, je vais y aller parce que l'Esprit m'a dit d'y aller. Mais Pierre ne comprenait pas encore le pourquoi vraiment. Il entrait dans la maison d'un Italien, d'un non-juif, et il savait en arrière de sa tête que ça ne passerait pas facilement au comité de l'Église de Jérusalem parce qu'ils étaient encore pas mal juifs, ces nouveaux chrétiens-là. Et qu'il y aurait de la difficulté d'expliquer son geste d'entrer dans la maison d'un non-juif, de manger surtout avec eux. Et c'est pourquoi Pierre, il s'est dit en lui-même, « Seigneur, tu es en train de me montrer qu'il n'y a pas de différence entre les Juifs et les non-Juifs. Les non-Juifs ont donc droit au salut comme nous avons droit. » Parce que eux, ce qu'ils avaient compris, c'est d'aller prêcher dans le monde entier aux Juifs seulement. Mais là, Pierre commence à réaliser que Jésus n'est pas seulement mort pour les Juifs, mais il est mort aussi pour toutes les nations du monde. Et quelqu'un doit dire « Amen ». Mais il s'est dit « OK, je suis prêt à concéder cela. Le salut est aussi pour les non-Juifs. » Mais sûrement qu'ils n'ont pas droit à la guérison divine. Sûrement qu'ils n'ont pas droit au baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est pour nous, les Juifs. Le salut, d'accord, l'Esprit me montre que c'est pour eux aussi, mais pas plus. Et c'est pourquoi, encore une fois, le Saint-Esprit a dû agir malgré la résistance de Pierre. Et pendant qu'il était en train de prêcher le salut, et que Corneille et toute sa famille acceptent le Seigneur dans leur cœur, soudainement, le Saint-Esprit descend dans chacun d'eux, les baptise, et personne n'écoute le sermon de Pierre maintenant. Ils sont tous en train de dire, et Pierre dit, il se tourne vers les frères qui étaient avec lui, parce qu'il a emmené des frères avec lui pour avoir des témoins. Parce qu'il savait ce qui l'attendait après. Il penserait au cash devant le comité de Jérusalem. Puis il dit, je veux avoir des témoins avec moi que c'est vraiment l'Esprit qui nous a conduits de cette façon-là. Et il se tourne vers eux, mais il dit, Dieu donne donc même le don du Saint-Esprit à ceux qui ne sont pas juifs. Ce qui prouve qu'il n'y avait pas du tout l'intention de leur parler du baptême du Saint-Esprit. Il voulait garder ça pour lui. Alors, il y a beaucoup de choses comme cela, que ça a pris des années et des années. Avec la révélation et l'inspiration du Saint-Esprit, ça a pris des années à changer. Imagine-toi si ces 120 disciples-là n'avaient pas reçu le baptême du Saint-Esprit, ça aurait pris des siècles et des siècles avant de comprendre l'ampleur de l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Mais grâce au Saint-Esprit, on reçoit la révélation, on comprend de plus en plus. Et il y a une différence, je vous le dis, quelqu'un qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, et je ne veux pas mépriser ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. On veut juste les attirer à être baptisés du Saint-Esprit. Mais il y a vraiment une différence dans la compréhension des Écritures entre quelqu'un qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit et quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit. Parce qu'habituellement, celui qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit ne recherche pas la révélation par le Saint-Esprit, mais cherche à étudier par son intelligence. Et va débattre verset avec verset. Et quelquefois, ça prend vraiment la révélation du Saint-Esprit pour comprendre ce que Dieu veut dire, parce que c'est comme si ça ne fait pas de sens au naturel. Je me souviens d'avoir lu un livre de quelqu'un qui était très connu à l'époque, qui prêchait contre le baptême du Saint-Esprit et le parlait en langue. Et il prenait un verset, puis il disait comment c'est stupide de s'appuyer sur ce verset-là, pour dire qu'on peut parler en langue aujourd'hui, puis citait le verset dans le livre du prophète Ésaïe qui disait que je parlerai à ce peuple-là dans une langue barbare. Et l'auteur expliquait que dans le contexte de l'Ancien Testament, ça n'a pas rapport du tout avec le Saint-Esprit, c'était pour confondre l'armée qui venait contre Israël. Mais le pauvre monsieur n'a pas lu dans Corinthiens, c'est pas lui-même qui se sert de ce verset-là pour expliquer les langues du Saint-Esprit. Mais à moins de recevoir la révélation du Saint-Esprit, c'est quand même pas évident d'aller chercher un verset comme ça dans l'Ancien Testament et l'appliquer pour le baptême du Saint-Esprit, à moins que tu aies la révélation et l'inspiration du Saint-Esprit. Alors ce soir, en terminant, nous qui sommes baptisés du Saint-Esprit, apprenons à continuellement être rempli du Saint-Esprit et apprenons à dépendre du Saint-Esprit, à écouter ce que l'Esprit en nous dit. Puis j'aimerais que cette assemblée, on puisse développer une sensibilité à la voix du Saint-Esprit, autant dans la direction que nous donnons à l'assemblée que l'assemblée elle-même. Amen. Et si on est sensible à ce que l'Esprit dit, nos réunions ne seront pas ennuyantes parce que le Saint-Esprit fait rarement deux fois la même chose. Il va te diriger d'une façon un mercredi soir, un autre mercredi soir d'une autre façon, un dimanche d'une façon, un autre dimanche d'une autre façon. Il faut que nos conducteurs de chant, il faut que nos musiciens, il faut que nos prédicateurs et toute l'Assemblée, nous apprenions à devenir sensibles au Saint-Esprit.
Amen.
Lorsqu'on se prépare pour venir ici à la réunion, on a besoin de chercher la face du Seigneur et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Je ne veux pas juste aller à l'église pour chanter deux, trois chants, écouter un message, revenir à la maison. Wow! Il doit y avoir quelque chose qui a été planifié de toute éternité pour cette réunion ici ce soir. Écoutez, si la Bible dit que des œuvres qui ont été préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont prédestinées, des choses qui sont présélectionnées, qui sont faites d'avance pour nous. Et moi, je suis certain que Dieu a planifié des choses nouvelles et spéciales à chaque fois qu'on se rencontre.
Amen. Oui.
Mais si on n'a pas encore de chercher la direction du Saint-Esprit, on va juste faire notre programme à nous. Puis si on fait juste notre programme à nous, nos réunions vont drôlement se ressembler d'une semaine à l'autre. Si bien que les gens peuvent rester à la maison et à peu près savoir ce qui se passe à l'Église. Mais si chacun de nous, on se fait comme un point d'honneur de chercher la face du Seigneur, c'est pas besoin d'être si compliqué puis solennel. Seigneur, parle-nous ce soir. Quelque chose, si tu veux m'utiliser, Seigneur, je suis là. Parole de connaissance. Parole de sagesse. Seigneur, donne-moi l'opération des dons spirituels. On devrait avoir les 9 dons en opération dans l'Église. Amen. Hey, ce serait plaisant, hein, si les 9 dons seraient en opération. Pas nécessairement dans la même personne. Une personne qui a le don de guérison, une personne qui a le don d'opérer les miracles, une personne parole de sagesse, parole de connaissance, un autre la foi, prophétie, diversité des langues. Peux-tu t'imaginer l'aventure d'une réunion? Ça devient une aventure parce que, wow, il y a quelque chose que Dieu veut faire parce qu'on est réunis ensemble pour louer son nom.
Amen.
Profitons-en. Nous avons la connaissance. Maintenant, il faut le mettre en pratique. Chercher sa face. Et demander au Seigneur d'intervenir, de nous montrer ce qu'il veut que nous fassions ce soir. Et vous allez être surpris. Parce que je suis certain qu'il ne vous dira pas toujours, viens juste t'asseoir. Vous avez des choses à faire. Des choses à opérer. Et en même temps, ça fortifie l'Église, ça vous fortifie, vous. Amen. Au début, vous pouvez commencer en tremblant, mais à un certain moment donné, nous prenons de l'assurance. Et puis, nous opérons des choses de l'Esprit de Dieu. On se lève en terminant, s'il vous plaît.